Pour finir cette série guyanaise, voici un entretien avec Denis, mon oncle qui m'a fait découvrir la Guyane. Mais pour commencer, allons faire un tour à Saint-Laurent-du-Maroni avec le guide du bagne. Donc, bonjour chef.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer où on est?
En fait, nous sommes ici dans à Saint-Laurent-du-Maroni. C'était dans les camps de la transportation. Ça a été construit pour et par les Banyans. Le premier Banyan est arrivé ici en 1842.
Et quelles étaient les conditions de séjour des bagnards ici?
Alors, les conditions, c'était très terrible. C'était pour travailler, pour construire. Et c'est eux qui ont construit presque tout l'ancien bâtiment ici à Saint-Laurent-du-Maroni. En fait, Saint-Laurent-du-Maroni était construit pour et pas des Banyans.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient qu'on devenait bagnard? Il y avait des conditions particulières
En
ou il
fait, il y
suffisait?
a ceux qui étaient criminels, il y a ceux qui étaient innocents, il y a ceux qui ont bien mérité la situation ici. Mais comme aujourd'hui, il y a des innocents, il y a ceux qui ont bien mérité la bagne. En fait, pour le bagnant, il y avait quatre catégories de ce bagnant. Le déporté politique, ils sont 300 pendant un siècle. Les transportés, ils sont 55 000 pendant un siècle. Relégués, ils sont 17 000. Et les libérés, c'était les Banyans qui avaient fini leur peine, mais ne pouvaient pas partir, ils devaient rester en Guyane.
Et pourquoi ils ne pouvaient pas partir?
Alors il faut payer les bateaux. Et ça coûte 2 000 francs. C'est trop cher pour les Banyans.
Et 2000 francs à l'époque, ça correspond à quoi?
Alors 100 francs, si on fait le calcul, 100 francs c'est aujourd'hui équivalent de 1 000 euros.
Et y a-t-il beaucoup d'évasion du camp?
Environ 16%. Mais pour aller où? La forêt était toujours hostile. Dans la forêt, comme aujourd'hui, il y avait des serpents, des anacondas, caïmans, bestiaux, etc., etc. Mais quand même, il y a quelques Banyans qui ont réussi à évader. Comme par exemple Belbenoît, Henri Charrière, qui est le papillon.
Quelqu'un sait comment il a procédé?
Comment il s'est évadé? Bon, on ne sait pas exact. Dans son livre, il a presque mélangé toute l'histoire des autres Banyans.
D'accord. Eh bien, merci, je voulais travailler.
Merci à vous. Et
Oh.
vous êtes aussi libre. Merci.
Je compte bien rester, moi.
Voilà la liberté.
Merci à vous, patron.
Merci.
Au
Allez, bye
revoir.
bye. Courage.
Moi, je t'exprimerai les choses comme ça. Pour te remettre Saint-Laurent-du-Maroni au sein de cette grande Guyane, je dirais que la Guyane, en soi, avec une cinquantaine de nationalités, dans une population qui ne dépasse pas 300 000 individus, reste un territoire d'aventure humaine. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, Dieu sait s'il y a de l'aventure humaine. C'est un espace géographique, la Guyane, qui fait partie de l'Amazonie, en tant que plus grande réserve de biodiversité. Toutes les recherches et exploitations de connaissances y restent offertes à l'homme et pour le devenir de la planète pendant longtemps. La Guyane, elle détient une part des mystères qui se cachent dans cette immensité végétale. Saint-Laurent-du-Maroni, la ville par laquelle nous sommes passés, est la sous-préfecture de l'Ouest guyanais. Cette ville, c'est le passage officiel de la frontière avec le Suriname, ce pays voisin, où on a été ensuite. De ce fait, la ville, elle vit au rythme des échanges commerciaux, plus ou moins légaux. Pourquoi? Parce qu'en 3 minutes de pirogue, on traverse le fleuve Maroni et on passe d'une devise forte, en l'occurrence l'euro, à une devise en dollars surinamais de 2,5 à 3 fois moins plus faible, offrant donc un libre cours à toutes sortes de transactions. Mais avant tout, Saint-Laurent, c'est une ville marquée par le patrimoine historique de l'époque des bagnards. Lors de notre visite au camp de la transportation, nous avons pu nous plonger dans le mode de vie des relégués. Et ô combien on a pu ressentir un instant la rudesse de ces emprisonnements tropicaux. Rappelle-toi, le micro de Joe a pu capter les données historiques qui ont été relatées par un guide compétent et passionné, à faire frémir au passage l'auditoire curieux.
On a côtoyé des gens
qui semblait venir d'un côté à l'autre de la frontière, ça laisse l'impression que tout le monde vit aussi bien ça en Guyane qu'au Suriname. Comment t'expliques ça?
Écoute, j'explique ce phénomène par le fait que, au niveau monétaire, nous disions que cela permettait une facilité pour faire tout commerce. Mais cela prête aussi à la Guyane une image d'Eldorado, le fait d'être sur cette frontière. Dans le sens où l'immigration en sol français est intéressante, parce que grâce aux avantages constitutionnels qui améliorent le bien-être en matière de protection sanitaire et sociale, et aussi en matière de scolarisation en Guyane, les gens viennent facilement. Il faut savoir aussi, et il faut bien retenir qu'en 1985, la guerre civile au Suriname a fait se déplacer une population d'individus qui fuyaient la guérilla. Beaucoup préféraient s'installer dans un havre de tranquillité. Donc ils ont passé la frontière. Mais il est évident que les bénéfices de ces avantages sociaux côté guyanais ont aussi facilité quelques transferts financiers au Suriname par la suite. Et comme actuellement, tu voulais le savoir. Et bien sûr, cela s'est traduit par des investissements dans leur pays d'origine, des investissements de rapport. Donc, la Guyane, elle reste, côté guyanais, ça reste un petit Eldorado pour prendre de l'euro et aller l'investir de l'autre côté. C'est actuellement ce qui se passe. C'est pour cela, Jonathan, que tu as pu constater que quand nous étions en pirogue sur le fleuve frontalier, la multitude d'embarcations qui font des allers-retours d'une manière ininterrompue, toute la journée, voire même la nuit.
Mais donc, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que la Guyane est un Eldorado pour les humains, pour l'espace, pour l'exploitation des sols, pour la protection des espaces forestiers et marines. Est-ce que ça modifie les visions des choses des Amérindiens issus de la forêt?
Alors, les Amérindiens, qui sont ces peuples premiers de la forêt, c'est une excellente question, car pour ces nations amérindiennes, originelles d'Amazonie, depuis 14 000 ans, nous disent les scientifiques, malgré le choc permanent des systèmes de pensée, ils sont restés imprégnés par de solides convictions sur le sens de la vie.
Est-ce que tu entends par là qu'ils ont une vision différente de l'existence?
Exactement. Cette question prend toute son ampleur quand on comprend que chez ces peuples des grands espaces forestiers, la vision qu'ils ont est liée au fait qu'ils ne conçoivent pas de dominer la nature pour la transformer, comme communément on a trop tendance à le faire dans nos pays nantis. Ils n'y voient aucun intérêt, car ils sont eux-mêmes partie intégrante de cette nature, qu'ils utilisent avec respect, au même titre qu'ils se respectent. Je rajouterai que cette pensée qu'ils ont en eux, cette philosophie de vie, pourrait-on dire, les met en opposition avec bon nombre de gens qui exploitent inconditionnellement la nature. On pourrait dire aussi que ces peuples de la forêt se doivent d'exister encore parce qu'ils ont pu vivre jusqu'à aujourd'hui dans des environnements très isolé, du fait de la difficulté pour y accéder. Et cette position de vie a certainement contribué à éviter qu'un ethnocide aille à son terme au cours des siècles passés. Si je l'exprime avec un peu de force, c'est parce que l'histoire nous rappelle qu'il y a un demi-millénaire, les nations amérindiennes comptaient plus de 6 millions de personnes et qu'aujourd'hui, il n'en reste environ pas plus de 300 000. Il ne faut pas se cacher de cette réalité, Ejo. Les Amérindiens ne conçoivent pas le droit de propriété du sol de la même manière que ce qu'ils se pratiquent dans nos sociétés, comme celles qui sont structurées en Europe, par exemple. Et ils se considèrent vivre dans un territoire appartenant à la communauté entière, sans qu'il y ait la primauté d'un individu par rapport à un autre. Ça, c'est un exemple très important qui fait la différence avec la société amérindienne. et la nôtre. C'est un droit oral qui fixe les limites entre eux. Et surtout, c'est fixé selon les besoins attendus, simplement les besoins, et sans rechercher des conquêtes, et sans avoir envie d'excès au-delà de ce qui est vital au présent. C'est toute une philosophie.
Mais faut prévoir le futur quand même. Comment ça se pratique dans l'utilisation moderne?
Effectivement, la question nous prête à penser à la notion de temps. Ce fameux concept temps qui est différent chez eux. C'est très intéressant, car les éléments philosophiques dont nous parlions précédemment sont systématiquement liés à la conception du temps. Nous disions que tout à l'heure que les Amérindiens ne voyaient aucun intérêt à conquérir d'une manière impitoyable les forces de la nature, car leur conscience est très marquée par le fait d'être eux-mêmes une partie intégrante de cette nature, et qui font tout, dans leur art de vivre, pour respecter cette symbiose avec leur environnement, au même titre qu'ils se respectent eux-mêmes profondément. Il faut alors comprendre que leur rythme de vie n'est pas basé sur les mêmes critères chronologiques que dans le monde monétariste dans lequel on dit que le temps, c'est de l'argent.